Bonjour à tous, il est gentiment midi 30, je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue pour cette conférence InnoVibes. Je m'appelle Cédric Luizier, je suis responsable de la communication pour la Fondation DIARC. Et c'est pour la première fois qu'on organise cette conférence InnoVibes en format digital. Et du coup, on a le plaisir d'accueillir des gens de partout en Suisse, notamment grâce à la promotion qui a été faite par notre partenaire Alpine City. Donc pour les nouveaux, quelques éléments. Donc ces rencontres sont organisées 5 à 6 fois par an par la Fondation DIARC. Elles ont de multiples objectifs, mais c'est surtout de donner du contenu pratique sur différents thèmes, également se faire rencontrer les gens et de façon à ce qu'ils puissent échanger sur des sujets en lien avec l'innovation, de manière à pouvoir disséminer au mieux ses envies d'innovation. Donc on va tenter d'essayer de faire ça en ligne aujourd'hui pour la première fois. Et pour les habitués, bien entendu, il faudra malheureusement renoncer au traditionnel lunch qui suit la conférence. Et pour rappel également, le site InnoVibes est toujours en activité. Il est toujours possible de voter pour vos thématiques et vos orateurs préférés ou de proposer des nouvelles thématiques, des nouveaux orateurs pour les prochaines rencontres qui pourraient bien avoir lieu aussi en format digital en fonction de la situation. Donc quelques petites règles avant de commencer. Le micro, donc si possible sur off pour vous au début. La caméra est bien entendu facultative et cette séance est aussi enregistrée pour du replay. Et si vous nous signalez que vous ne voulez pas être sur une vidéo lorsque vous posez une question, n'hésitez pas à nous le dire et puis on vous l'enlèvera au montage. Et vous avez aussi possibilité de poser des questions via l'onglet qui s'appelle « Converser ». Il suffit de l'activer, c'est comme un chat. Et si vous voulez poser des questions par écrit, je me ferai un plaisir de les relayer en live, quoi. Au niveau du format, donc, on a choisi une discussion un peu à bâton rompu avec Pascal Eichenberger. Donc, j'ai préparé quelques questions pour lui. Ça durera en principe une vingtaine de minutes. Puis, on va ouvrir vos micros pour vos questions ou vos échanges. Donc, Pascal a accepté gentiment de jouer le jeu et d'être franc et ouvert par rapport à la situation actuelle. Il vous donnera son ressenti personnel, son avis et aussi prêt à débattre avec vous. L'essentiel pour nous est vraiment que cet échange vous soit utile en tant que chef d'entreprise, mais également en tant que chef d'équipe. Donc, dans cet échange, nous allons aborder principalement la fonction du dirigeant d'entreprise qui, forcément, avec la généralisation du télétravail, doit se réinventer, se réadapter à la situation. On questionne aussi le leadership. Et il y a plein de questions pratiques qui se posent aussi après ces 3 semaines de confinement. On ne va pas tellement parler d'outils, on va plutôt parler de leadership, de posture que doit adapter un chef d'équipe ou un chef d'entreprise. Et on va terminer aussi en mode optimiste, puisqu'on est toujours optimiste au niveau de la Fondation DIARC, par nous poser des questions sur l'après-coronavirus. Qu'est-ce que ces 3 semaines nous ont déjà appris au niveau du dirigeant ? Voilà, j'en ai assez parlé. J'appelle maintenant sur le devant de la scène Pascal Eichenberger, notre invité du jour. Et je propose de commencer peut-être tout de suite, Pascal, par quelques petits mots de présentation, histoire qu'on fasse mieux connaissance avec toi.
Mais volontiers. Merci, Cédric. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vois que vous êtes nombreux. J'en connais certains, d'autres pas. Merci d'être là. Donc, je suis très, très heureux, très honoré de participer à ce premier InnoVibes entièrement digital. Une des choses à retenir de ce que je peux partager avec vous, c'est qu'il faut pas avoir peur d'innover. C'est ce qu'on est en train de faire, donc c'est bien. Peut-être en deux mots, je me présente. Donc, moi, je suis le directeur d'une société qui s'appelle Logicial, qui édite des logiciels de gestion d'entreprise qui s'appelle WinBees, que je suis sûr certains d'entre vous utilisent. Et j'ai aussi la chance de soutenir une association qui s'appelle Alpine City, qui fait la promotion en fait, de l'industrie des télécommunications, de la communication, de la haute technologie en Suisse. J'imagine que l'équipe est là aussi, je leur dis bonjour. Voilà, donc en quelques mots, voilà qui je suis. Et comme ça, vous pourrez peut-être adapter vos questions.
Merci Pascal. Donc, je propose de commencer, d'entrer dans le vif du sujet. Donc, effectivement, tu es chef d'entreprise, on l'a dit, à peu près 45 employés. J'aimerais tout d'abord savoir comment ça se passe finalement chez Logicial depuis le début mars, effectivement, de manière concrète dans la vie de tous les jours de votre entreprise. Comment ça se passe?
Ça se passe bien. Déjà, ça se passe, c'est déjà pas mal. Mais je dirais que ça se passe très très bien. On avait assez bien anticipé, donc on avait fait des essais pour s'auto-confiner avant que ce soit nécessaire, ce qui a beaucoup réduit la problématique de ce changement. Et puis depuis maintenant environ 15 jours, tout le monde travaille à la maison afin de protéger les collaborateurs puis de contribuer à la limitation de cette épidémie. Donc non, ça se passe très très bien. J'en profite d'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a, mais si j'ai des collègues qui sont là ou les collègues d'Alpi City, je leur fais un grand bonjour. C'est grâce à eux que ah ben voilà, il y en a, ils peuvent chatter là. Alors, ils sont là, donc bonjour, merci pour la manière dont vous êtes adapté, c'est super.
Si on revient au rôle de l'entrepreneur, donc comment finalement est-ce que vous gérez votre entreprise depuis le début mars, quoi, concrètement?
Alors, je dirais que c'est un moment passionnant. Hein. Si on est fait pour ce métier, c'est maintenant qu'on s'éclate. Les journées sont assez longues, c'est sûr que ça représente une grosse charge de travail. Je pense qu'il y a deux grandes priorités à avoir. La première, c'est de bien communiquer avec les gens, parce que vous pouvez en fait pas les gérer à distance. Hein. Ça sert à rien d'essayer de reproduire avec une vidéocaméra la même chose que ce que vous faites dans un bureau. Donc, il faut les aider à se remettre le plus vite possible, qu'ils aient les bonnes priorités, qu'ils sachent quoi faire. Puis, il faut surtout leur faire confiance, il faut les laisser bosser. Il n'y a pas tellement besoin de les micromanager. Et puis, je dirais la deuxième chose, c'est que il faut essayer d'utiliser le quotidien pour se projeter dans l'après. C'est pas que c'est des phases séparées, c'est pas que je passe 3 heures par jour à gérer le quotidien, puis ensuite j'écoute de la musique classique en me demandant ce qu'on va faire après cette crise. Il faut faire les deux en même temps. Et je prends souvent cette image, le travail d'un chef d'entreprise, c'est un petit peu comme au cirque. Vous savez, vous avez ce gars qui a des baguettes, puis il met des assiettes dessus. Et il faut aller d'une baguette à l'autre pour qu'elle ne tombe pas. Ben là, c'est la même chose, simplement en un peu plus sportif que d'habitude.
Ok, et puis si on entre un peu plus dans le faire, comment ça se passe? Quels outils vous utilisez? Est-ce qu'il y a des rendez-vous quotidiens au niveau de l'équipe? Est-ce qu'il y a des trucs que
Alors,
tu mets en place?
On fait un meeting, un vidéo call tous les matins avec l'équipe des ventes parce que c'est aussi moi qui m'en occupe, mais c'est à peu près le seul rendez-vous quotidien que j'ai. Je m'astreins aussi à faire un reporting écrit tous les soirs simplement pour que moi, je puisse réfléchir à ce qu'on a fait puis si on se pose les bonnes questions. Je dirais que la chose la plus importante, même en temps de paix, si on veut, c'est Andy Grove qui disait ça, le troisième employé d'Intel, c'est qu'il y a seuls les paranoïaques survivent. Et je pense que quand on dirige une entreprise, on a une responsabilité parce qu'il y a des tas de gens qui souhaitent recevoir leur salaire. Enfin, c'est quand même une partie importante. Et pour que cette entreprise, elle reste en vie, il faut vraiment être aux aguets. C'est pas une mauvaise idée d'être un peu parano maintenant et puis de mettre les bouchées doubles pour que tout se passe bien. Donc, c'est pas tellement le fait de fixer des meetings matin, midi et soir. Moi, je passe, je sais pas, entre 7 et 8 heures par jour au téléphone, à peu près. Et puis, il faut quand même aussi se gérer plus comme un sportif, puis être en forme pour le match du lendemain. Ça sert à rien de tout donner sur 2 jours et puis après d'être au tapis. Il faut garder l'esprit frais. Alors, c'est un peu contradictoire parce que d'un côté, il faut beaucoup travailler, il faut aider les gens, il faut les soutenir, mais c'est tout à fait faisable. Il faut simplement en prendre conscience.
Quelqu'un d'endurant comme toi, ça ne devrait pas poser de problème. Ouais. au niveau des priorités, donc j'imagine que tu as peut-être pas mis par écrit, mais tu as dans ta tête en tout cas des priorités que tout entrepreneur devrait avoir. Est-ce que là, tu as des conseils par rapport à ça, sur ces priorités?
Je dirais la première, c'est de pas mourir. C'est bien, c'est bien de pas mourir. J'ai noté sa phrase, c'est Jean d'Ormesson, un auteur que j'aime beaucoup. Il dit « Vivre est une catastrophe et c'est aussi un grand bonheur ». Alors, c'est vrai, ça, je pense que ça n'a jamais été plus vrai que maintenant. Donc, rester en vie à titre personnel. Donc, tout faire pour aider à stopper la progression du virus, bien écouter ce que disent l'OFSP, protéger les collaborateurs, garder la meilleure santé mentale possible vu ce qu'on vit tous collectivement, qui n'est pas forcément quelque chose d'évident. Et puis, du point de vue de l'entreprise, alors évidemment, il y a les choses de base, il faut du cash, il faut survivre, il faut préparer l'après, tout ça c'est très compliqué. Si vous regardez, pour vous donner un exemple, ce qu'a fait la Confédération, les cantons, en collaboration avec les banques, je sais qu'ils ont été assez critiqués et tout, mais posez-vous la question, il y a 6 mois, est-ce que vous auriez pensé que vous pourriez emprunter 1,5 million gratos en une semaine en remplissant une page A4? Moi je trouve ça pas mal, hein, et je suis assez admiratif. Alors, je suis d'accord que c'est certainement pas parfait. Moi, je suis pas spécialiste de la finance, mais je suis quand même assez admiratif de la rapidité avec laquelle l'État, la Confédération a pris la mesure de ce qui se passait, puis tout ce qu'ils ont mis en place. Encore une fois, on peut certainement améliorer. Il y a pas de souci, mais quand même, ils ont été bons. Ils ont été extrêmement agiles et ils ont fait beaucoup de choses. Et je pense que pour survivre, alors, faut être parano parce qu'il faut se poser les bonnes questions. Puis après, faut se mettre dans l'action. Il faut préparer demain, il faut agir, il faut essayer des choses. Je pense que de rester dans la tétanie, c'est le pire. Parce que dans un monde qui change à la vitesse où il change aujourd'hui, croire qu'on va attendre et faire la même chose qu'hier, c'est pas raisonnable à mon avis.
Ok, merci. On a parlé d'anticiper, de voir déjà un petit peu plus loin, mais on a parlé aussi des outils technologiques, logiciels utilisés maintenant. J'aimerais revenir sur le rôle de l'entrepreneur et quels sont finalement ses défis au-delà de ces outils technologiques pour gérer ses 45 collaborateurs. Parce que finalement, il faut que l'entreprise continue à tourner.
Alors, moi, j'aime pas tellement le verbe gérer parce que ce sont des gens puis qu'ils n'ont pas tellement besoin d'être gérés. Ils sont adultes. Je ne les gère pas. En fait, c'est peut-être ça le truc. Mais ce que je fais, c'est que je les aide à fixer les priorités. Je leur dis souvent, par exemple, on lit dans les livres de management où les gens disent « Ne venez pas me voir avec un problème, mais avec une solution. » Alors, ça fait des années que je dis ça, mais je leur dis souvent « Venez me voir avec un problème. Si vous avez une solution, faites-le. Puis si vous avez vraiment un problème ou le sentiment que peut-être il va y avoir un problème, dans ce cas-là, il faut m'appeler. » C'est là que je peux les aider. Alors, ce n'est pas forcément facile parce que ça veut dire que comme chef d'entreprise, vous êtes confronté à des tas de choses qui ne marchent pas tout le temps. Donc bon, il y a des journées qui sont longues, mais je pense que c'est là qu'on peut vraiment aider. Aider à résoudre des problèmes, ça, c'est vraiment la chose importante. Pas micro-gérer les gens et puis les infantiliser, ça ne marche pas. D'ailleurs, évidemment, il faut essayer d'avoir une certaine autorité quand c'est comme ça. Et si on regarde l'étymologie du mot autorité, c'est celui qui élève. Donc, il ne s'agit pas de ramener les gens avec qui on travaille à un stade enfantin. Il s'agit plutôt de les aider à passer par-dessus.
Et là, justement, il y aurait des éléments peut-être concrets que tu pourrais amener. Comment est-ce que tu fais pratiquement, physiquement, surtout que maintenant, tout se fait en digital, tout se fait par l'image ou par le son. Ouais. Est-ce que, là, je pense qu'il y a aussi des défis et des problèmes en tant que chef d'entreprise, quoi.
Je pense que la première chose, il y a un psychologue Fischer qui fait cette courbe-là. Certains appellent ça la courbe du deuil. Enfin, c'est les stades à travers lesquels on passe. Donc, en gros, quand vous avez un choc, ce qui nous arrive aujourd'hui, d'abord, vous êtes un petit peu excité, c'est un peu bizarre. Puis ensuite, ça commence à redescendre. Là, les gens prennent conscience qu'en fait, il nous arrive quelque chose de grave. Les gens se sont dit, on ferme les écoles, on ferme les coiffeurs. Pour moi, c'est un vrai problème. Je vais finir comme un hippie à la fin de ce confinement. Mais puis tout d'un coup, on se rend compte qu'en fait, la situation est vraiment sérieuse. Et puis là, soit on craque, soit on remonte, et puis on invente quelque chose de nouveau. Donc ça, on part, on est un peu excité, ensuite on déprime, puis après on repart, puis on est créatif et on invente quelque chose de nouveau. Et ce mécanisme-là, alors chacun et chacune va le vivre à sa manière, mais ce que vous pouvez faire, c'est déjà en tant que chef d'entreprise, prendre conscience que vous avez peur, puis le dire. C'est pas moi, si j'avais un boss qui me disait qu'en fait tout va bien, là j'aurais vraiment la trouille. Je veux dire, ce serait très angoissant. Donc il faut prendre conscience de ça, et puis vous pouvez vous entraîner en fait à le parcourir de plus en plus vite. Je pense qu'on le parcourt nécessairement, mais on peut essayer en s'entraînant, en prenant conscience de ses propres sentiments, etc., on peut essayer de raccourcir le temps qu'il faut pour se remettre dans le moment où on va pouvoir changer, innover, faire des choses nouvelles. Et ce temps-là, compresser ce temps-là, je pense que c'est la clé. Parce que tout le temps qu'on passe à rester dans un état de stupeur et d'hébétement et de panique, ben, c'est un peu du temps perdu, hein. Alors, comme on sait qu'on y passe, il faut essayer d'y aller vite.
C'est difficile quand même. Je pense qu'il y aura cette question aussi qui va revenir. Il y a la question de la mobilisation des collaborateurs. Donc, finalement, on se retrouve dans un salon, dans une chambre à coucher, je ne sais pas où, pour travailler. On est souvent seul aussi dans les bureaux. Là, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être entreprises que tu entreprends pour garder cette mobilisation de voilà. L'équipe.
Alors, je pense qu'une chose très importante, c'est de communiquer, pas seulement auprès des collaborateurs, des employés, mais aussi parler avec sa famille, parler avec ses actionnaires, parler avec ses clients. Alors, nous, on en a trop pour pouvoir leur parler, mais on s'est mis à utiliser LinkedIn pour leur répondre. On fait plein d'expériments pour causer, quoi. Moi, j'ai très rarement, ça fait 6 ans que je dirige WinBiz, j'ai très rarement pris la parole publiquement. Et maintenant, je le fais très volontiers parce que c'est un moyen de dire à nos clients qu'on est en vie, qu'on est là pour eux, puis qu'on fait tout ce qu'on peut pour les soutenir. Donc, je pense que ce n'est pas le moment de se taire. Donc, l'autre chose, je dirais, c'est qu'on est toujours maladroit quand on communique. Mais le pire, c'est de se taire. Donc, il faut essayer d'articuler un discours. Il faut, bah, comme toujours, jamais mentir, dire la vérité, essayer d'être vrai, faire avec ce qu'on est, pas essayer d'inventer un personnage et puis ne pas se cacher. L'autre chose, c'est que je suis pas un immense fan. Alors bien sûr, il faut appeler les gens pour essayer de leur remonter le moral, les guider, on peut les soutenir, c'est sûr, en fonction des caractères, mais les gens, ils sont grands, en fait ils connaissent leur job, il n'y a pas besoin d'aller leur dire quoi faire, il faut juste les laisser bosser. Vous voyez, des fois je pense que à vouloir bien faire, on ne fait pas forcément bien. Je vous donne un exemple. On a un nouveau responsable du support qui a commencé il y a quelques mois, donc je ne sais pas même plus d'ailleurs quand, peut-être 2 mois. Puis quand il est arrivé, il m'a dit, écoute Pascal, il faut qu'on mette en place un outil de ticketing, ce qui permet quand un client nous appelle d'avoir tout son historique, puis de savoir ce qu'il a déjà dit. Puis à l'évidence, c'est un outil qui est bien. Mais quand il est arrivé, je lui ai dit, écoute, il ne faut pas trop t'exciter, vas-y lentement, ne brusque pas les collaborateurs, prends ton temps, etc. etc. Et puis évidemment que maintenant, qu'on est tous à la maison, c'est impératif d'avoir un outil comme ça. Alors, j'ai dit à tout le monde, j'ai pris la parole devant tous les employés, puis je leur ai dit, ben, voilà, j'ai dit à ce monsieur d'aller lentement, et c'était une grosse bêtise. Et en fait, depuis chez lui, il a implémenté ça, et on a changé tous les processus sur la manière dont on répond aux clients en étant tous à la maison. Donc, en fait, c'est possible. Là, en l'occurrence, c'est moi qui lui ai dit de ne pas le faire trop vite. Eh bien, j'aurais mieux fait de me taire. Et donc, je pense qu'il ne faut pas trop essayer de les… Il ne faut en tout cas pas les traiter comme des enfants, mais vraiment les traiter comme des adultes et puis leur faire confiance. Et ce qu'il faut s'assurer, c'est qu'ils ne restent pas dans un état de choc, hébété, oh, je ne fais plus rien. Les gens sont grands, ils savent qu'il faut gérer le truc à la maison. Vous avez des articles dans les journaux tous les jours qui vous disent comment gérer votre temps à la maison. c'est bon, quoi. On a, il n'y a pas besoin de revenir là-dessus 115 ans. Alors, si quelqu'un a des questions, j'y réponds volontiers, mais ce n'est pas tellement le cas. Je pense qu'il faut vraiment les laisser bosser puis les aider à fixer les priorités. L'autre chose, je dirais, qui est importante, c'est que quand la situation est un peu inconnue, bizarre, changeante, une des choses qu'il faut dire, c'est qu'il faut communiquer sur le plan qu'on a et puis communiquer les changements nécessaires, les adaptations qu'on doit faire toutes les semaines, tous les mois, en fonction de ce qui va se passer, et pas essayer de faire croire qu'on a un plan à l'épreuve des balles pour les 115 années qui viennent. C'est simplement pas vrai. Quelqu'un qui vous dit ça, il vous ment. Donc, il faut rester suffisamment humble et transparent pour pouvoir communiquer ce qu'on voit réellement, ce dont on est sûr, et puis accompagner ce changement.
Ok, merci beaucoup. Si on va un petit pas plus loin, on a tous l'espoir que la crise va se terminer. On y croit dur comme fer le plus vite possible. Est-ce que cette période-ci est propice pour se préparer à sortir de cette crise? Et si oui, comment? Qu'est-ce qui se fait en tout cas chez Logicial et dans ta tête aussi pour préparer cette après-crise, quoi?
Bah alors, j'espère bien que s'il y a bien un moment où il faut se préparer, c'est maintenant, ouais, c'est sûr. C'est une évidence. Le monde va changer comme il change tout le temps. Simplement là, ça va un peu plus vite et puis c'est un petit peu plus visible. Mais disons, moi, ça fait plus de 6 ans que je prépare Winbiz à évoluer. Alors, je ne change pas grand-chose parce qu'en fait, on exécute notre plan et notre vision simplement un petit peu plus vite. Les priorités sont un petit peu bousculées, mais fondamentalement, il n'y a pas grand-chose qui change. Par contre, peut-être pour répondre, je peux essayer de prendre un exemple. Par exemple, si, imaginons, vous avez un fitness. OK. Donc, vous avez une surface commerciale avec des haltères, des rameurs, des trucs comme ça. Et puis là, tout d'un coup, c'est la crise, il ne se passe plus rien. Vous êtes obligé de fermer. Donc, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Hein. Vous êtes obligé de fermer, vous n'avez plus de revenus. Une des choses que je ferais si j'avais un fitness, c'est pas du tout le cas, hein, mais disons si tel était le cas, j'appellerais les clients, je leur proposerais un coaching personnalisé pour pouvoir faire des exercices à la maison, puis pas devenir fou. Je leur prêterais les haltères ou je sais pas des rameurs. J'essaierais d'organiser un déménagement pour qu'ils aient ce matériel. Pour deux raisons, enfin, ouais, j'investirais énormément de temps pour essayer de m'occuper de la clientèle. Pourquoi? Parce que dans les fitness, les gens, ils payent typiquement pour 3 mois, 6 mois, une année. Et un, vous ne savez pas quand vous allez pouvoir le rouvrir. Donc, voilà, je veux dire, il faut trouver une solution maintenant pour après. Et puis, la deuxième raison, c'est que si vous ne vous occupez pas des gens qui vous ont payé ou qui prennent un service chez vous maintenant, alors je ne sais pas quand vous le ferez. C'est maintenant qu'ils ont besoin de vous. Donc, il faut être présent. Et je crois que se mettre dans une dynamique où on essaye quelque chose de nouveau, même si on est maladroit, même si ce n'est pas parfait, ça ne l'est jamais, c'est beaucoup mieux que d'attendre simplement le tsunami qui se prépare. On ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas comment il va falloir se réinventer, donc il faut se mettre en mouvement. Peut-être une autre manière de le dire, c'est que quand on est en mouvement, on peut changer de direction. Si on est statique, ben, c'est très difficile.
C'est là qu'on parle souvent de ce mot qui est un peu magique pour certains, le mot d'innovation finalement. Est-ce que la clé ne serait pas là? Et si c'est la clé, comment finalement rendre tangible cette innovation dans une entreprise?
Alors, c'est sûr que c'est ça la clé. Innover, ça veut dire innovare, c'est aller dans la nouveauté. Et ça ne contient pas l'idée qu'en fait, ce qu'on fait, c'est bien. Ça contient l'idée qu'on change. Et moi, il y a des gens qui sont des pros de l'innovation. Moi, j'ai travaillé là-dedans. J'ai vu qu'il y avait Yves Karcher qui était connecté. J'ai beaucoup appris avec lui. Je le salue d'ailleurs. On a travaillé ensemble chez Logitech. Il y a des gens qui ont des vraies compétences pour innover. Mais la règle de base, c'est innover, c'est dur parce que quand on change, nécessairement, on se trompe. Et ça, c'est jamais très agréable. Mais ce que je peux vous... En tout cas, je ne suis pas certain d'avoir raison, mais mon sentiment appuyé, c'est qu'aujourd'hui, avec ce qu'on traverse, le risque de changer et de faire des bêtises, il est beaucoup moins grand que le risque de rester là où on est, d'attendre sur sa chaise. Donc, on prend un risque à innover, mais c'est vraiment se mettre en mouvement. Et il faut essayer quelque chose, il faut appeler les gens, il faut faire des petits essais qui ne vous coûtent pas trop cher, il faut aider les gens, se mettre dans l'action, faire quelque chose, mais pas juste attendre. Ça, c'est le pire. Si vous avez le sentiment que vous êtes en train d'attendre, ce n'est pas bon. Il faut essayer quelque chose, parler à vos clients, expérimenter des nouvelles choses, pas avoir peur de les arrêter si ça ne marche pas, etc. Puis l'autre, le pendant de la chose, qui est une façon plus intellectuelle de le voir, donc travailler avec le corps parce qu'on fait des essais et puis développer une vision de ce qu'on va faire, de ce qu'on va devenir, mettre ça en perspective. Il y a un article que je peux vous conseiller, c'est de... Comment elle s'appelle ? Marina Gorbis, je crois, c'est la directrice de l'IFTF. Et elle a écrit un super article dans Stanford Social Innovation, je crois, un truc comme ça, qui s'intitule Our Gutenberg Moment. Et en fait, elle reparle des années 1450 où l'imprimerie a été inventée, puis tout ce que ça a changé dans la société. Et elle explique, c'est un article qui date d'il y a quelques années, elle explique qu'en fait, avec les technologies de l'information aujourd'hui, donc le fait que sur votre téléphone, vous ayez le monde entier à portée de main, elle explique que ça va réellement changer le monde. Et ça, je pense que c'est une vraie force qui est à l'œuvre. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, c'est juste qu'elle est en place. Il y a la crise écologique, il y a plein de choses qui sont à l'œuvre, mais il faut vraiment réfléchir à ces tendances de fond et puis essayer de comprendre comment, en tant qu'individu, en tant que groupe, si vous dirigez une entreprise, comment est-ce qu'on rend service à la communauté. Pour avoir une entreprise, il faut résoudre un problème, il faut aider quelqu'un, il faut faire plaisir à quelqu'un, sinon vous cessez d'exister. Et d'essayer d'imaginer le monde de demain. L'autre avantage, c'est qu'en fait, c'est un bon remède de se projeter. Ce monde, il nous appartient. C'est pas le monde de quelqu'un d'autre. Je reviens encore une fois à l'exemple de l'État. L'État, c'est projeté. On dit toujours que les fonctionnaires sont lents. Alors, ça me fait bien rire parce que, je veux dire, je sais pas, ils ont mis quoi, 7 jours, 7-8 jours, puis paf, tu peux aller chercher un demi-million à la banque. C'est quand même classe. Alors, l'État a réagi avec une promptitude épatante. Et je pense que ce qu'il convient de faire, c'est de les imiter et puis d'essayer de se projeter en avant. Mais il faut mener une réflexion. Si vous n'avez pas le temps de lire, c'est le moment de vous y mettre. YouTube aussi, je trouve que c'est un outil fantastique. Tous les soirs, vous pouvez passer 1 ou 2 heures à écouter des auteurs qui vous intéressent, mais il faut se construire, faut se mettre en mouvement, puis il faut réfléchir à demain, qu'est-ce que ça pourrait être, puis si tant qu'à faire, quitte à inventer quelque chose, autant que ce soit bonheur. Je ne vois pas pourquoi on se priverait de se faire une vie belle et agréable.
Merci beaucoup. Pour info, donc le lien, c'est magique cet outil, donc merci à Guillaume Baudin qui a partager voilà. le lien vers le fameux article en question. J'ai été un peu moins rapide, je m'en excuse pour le doublon. Je voulais terminer, après on va passer aux questions parce que le temps file. Pascal, par de nouveau essayer de venir un petit peu dans ta tête, au niveau philosophique finalement, quel est le comportement mental qu'il faut adopter en tant que chef d'entreprise dans cette période? Voilà, est-ce qu'il y a une stature à adopter différente de d'habitude?
Alors, je pense que c'est le moment de se réveiller si ce n'était pas déjà le cas. C'est une période passionnante. Vivre, c'est un privilège. Une des attitudes, à mon avis, qui ne convient pas, c'est de devenir un mieux-aventiste. Hein. C'était mieux avant. C'est possible, mais ce n'est plus là. Donc, les mieux-aventistes, je ne pense pas qu'ils cèdent beaucoup. Oui, il faut s'accrocher à demain, puis essayer de le construire. Il faut essayer de faire des bonnes choses. Il faut le reconnaître quand on se trompe. Je pense qu'en tant que chef d'entreprise, si on revient à ça, C'est plus, il faut évidemment être un bon dirigeant et puis il faut prendre les bonnes décisions, etc. Mais ça, vous le faisiez déjà avant. Sinon, vous n'auriez pas d'entreprise. Vous seriez déjà mort. Donc, ce qu'il faut, c'est faire le saut du leadership. Ça, je pense que c'est bien. Un exemple que je peux donner, par exemple, c'est qu'un chef d'entreprise, en fait, un dirigeant, il voudra avoir raison. Il va vouloir prendre la bonne décision. Je pense qu'un bon leader, ça lui est égal d'avoir raison. Ce qui compte, c'est de mettre les gens en mouvement, si possible, dans la bonne direction. Mais de penser qu'on peut avoir raison matin, midi et soir dans une crise pareille, j'y crois pas trop. Il faut faire des essais et puis y aller dans la joie. Il faut se mettre en mouvement.
Merci beaucoup pour cet élan
Je t'en prie.
d'optimisme et de joie. Voilà, moi je suis arrivé au bout des questions que j'avais préparées. J'ouvre volontiers maintenant la parole ou l'image à des gens partout en Suisse romande. Si vous avez des questions pour Pascal, n'hésitez pas. Il y en a deux en attente sur le chat que je relayerai, mais je laisse volontiers la priorité au direct. Alors, n'oubliez pas d'allumer votre micro lorsque vous vous êtes décidé.
Bon, alors, s'il n'y en a pas, je me lance. Alors, moi, c'est moi qui ai posé la question sur le chat déjà. En fait, qu'est-ce qu'il y avait comme problème exactement pour faire en sorte que vos collaborateurs ils puissent travailler depuis la maison? Concrètement, quels étaient les problèmes, par exemple? Est-ce qu'ils n'avaient pas l'environnement nécessaire au niveau de l'ordinateur ou des choses comme ça? Parce que vous, je pense que c'était plus facile que pour. Par exemple, un fitness, puisque vous aviez déjà des gens qui font du développement, ils ont besoin d'un ordinateur et puis pour eux, c'est bon, ou bien.
Oui,
Enfin, voilà.
non, non, vous avez raison. Pour nous, c'était relativement facile parce qu'on était évidemment que tout le monde a un ordinateur, y a plusieurs personnes qui ont mis en place un système sans qu'on paye quoi que ce soit pour qu'on puisse tous travailler de la maison en sécurité. Donc, c'est sûr qu'on avait la vie assez facile de ce point de vue-là. L'exemple par rapport au fitness, il est un peu différent. C'était pour dire. Si vous êtes dans un business où vous ne pouvez pas travailler de la maison, parce que si vous avez un fitness ou un restaurant, mettons, vous avez un restaurant, il est fermé, vous faites comment? Vous êtes cuit. Ça ne sert à rien de vous mettre derrière un ordinateur à la maison. Donc, vous pouvez commencer à livrer des plats à domicile ou si vous faites un fitness, vous faites des tutos sur YouTube pour expliquer aux gens comment on va tous finir avec plus 30 kilos si ce confinement dure 3 mois. Moi, je fais que de manger. Enfin, dans ces situations, il n'y a que la gastronomie qui ne vous déçoit pas. Je suis sûr qu'il y a des choses à faire. Maintenant, concrètement, pour le travail à distance, ça dépend, je dirais, beaucoup du type de gens que vous avez engagés. Si ils n'ont aucune connaissance de ce que c'est qu'un ordinateur, ça va être chaud, hein. Il faut être réaliste. S'ils savent utiliser un ordinateur, ce n'est pas très compliqué. Il faut simplement les laisser faire, les laisser s'adapter, les laisser trouver des outils. Les gens ne sont pas bêtes. Enfin, est-ce que vous avez des questions plus spécifiques sur le travail à distance? Vous êtes
Oui,
dans quoi
c'était.
comme.
Alors bon, moi je suis, j'ai pas d'entreprise, hein, c'est vraiment par pure curiosité que je suis venue. Je suis justement informaticienne dans une entreprise. Et puis justement, en fait, je vois pas d'où vient le problème de faire travailler des gens depuis chez eux. Enfin, en fait, j'arrive pas à
Ah,
concevoir quel
ok.
problème ils peuvent avoir à travailler depuis chez eux.
Ok. Ouais,
C'est
alors merci d'avoir précisé. J'ai maintenant compris votre question qui est pertinente. C'est une très bonne question. Ben, il y a une raison très simple. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, les grandes entreprises, elles faisaient des expériences de plus de bureaux. Hein. Mettons, on a 100 personnes dans un bâtiment, on va avoir 30 bureaux parce que les mecs sont dans le train, ils travaillent à la maison, etc. Et je pense que c'était une grande erreur parce que les humains, on est aussi des animaux et des êtres territoriaux. Et en fait, quand les gens se croisent dans une entreprise, ils échangent. Ils échangent au café, ils échangent quand ils sont en difficulté ou qu'ils sont heureux. Typiquement, un exemple que je peux vous donner très concret, c'est que si vous travaillez avec quelqu'un puis que vous le voyez tous les jours, vous allez voir s'il va bien ou pas. D'accord? Si chacun est à la maison, vous ne le saurez pas. c'est beaucoup plus difficile. Une chose que vous pouvez taper dans Google, c'est Virtual Team, les équipes virtuelles. Il y a toute une série de règles qui sont très bien documentées sur comment est-ce qu'il convient de travailler quand on ne se rencontre pas. Mais une des choses qui est décrite dans la littérature, c'est qu'il faut d'abord avoir rencontré les gens en personne au moins une fois. Quand je travaillais chez Logitech, on avait des collègues en Irlande, en Suisse, en Californie, en Chine, à Taïwan. Et on passait pas mal de temps dans l'avion parce que si vous n'allez pas voir les gens de temps en temps, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne simplement pas. Alors, je pense que vous, comme informaticienne, peut-être que vous le sentez moins parce que c'est vrai que chez nous, on a aussi une équipe de développement d'une quinzaine de personnes. Ils travaillent comme des princes hein, et des princesses, mais ils travaillent vraiment bien parce qu'ils sont extrêmement habitués à ces outils puis que ils ont probablement, avant que je le sache, déjà mis en place des outils pour faire du vidéo coach, c'est qu'ils ont fait des essais où ils se voient tout le temps, après plus, etc. etc. Je pense que c'est dans mes équipes ceux qui se sont habitués le plus vite, ajustés le plus vite, si vous voulez. Mais les gens ont besoin de se voir. D'ailleurs, je suis sûr que vous le sentez dans votre vie. Si vous êtes confiné, ce n'est pas la même chose de vivre à journée faite dans sa maison ou son appart, ou de pouvoir aller boire un café avec les copains.
Bon, peut-être que mon cas n'est pas le bon, parce qu'effectivement, moi, je n'ai pas trop de problèmes à rester confiné toute la journée. Donc, ouais. Je fais peut-être partie des rares exceptions que ça ne gêne pas d'être confiné. Mais oui, d'accord, c'est ouais. Mais donc, par exemple, avec toutes les autres personnes, vous avez eu quoi comme problème, par exemple, pour qu'eux, ils puissent commencer à travailler? Est-ce que c'était... Autant des problèmes au niveau pratique, ça veut dire mise en place d'un environnement, explication de comment ils pourraient travailler à distance, quels outils ils auraient besoin. Ouais. Ou alors, est-ce que c'était surtout de l'aide psychologique, on dira?
Ouais, les gens, ils ont besoin d'être aimés et puis d'être rassurés. Donc, ça, c'est comme ça tout le temps. Alors, c'est sûr que si vous les avez plus sous la main, vous devez le faire autrement. Je dirais, ce qu'on a fait, c'est que on a d'abord commencé par faire un essai. Il y a peut-être 3-4 semaines, j'ai réuni tout le monde, puis je leur ai dit, demain, en fait, il y a la moitié des gens qui vont travailler de chez eux, puis l'autre moitié qui sera ici. Et puis jeudi, donc 2 jours plus tard, mercredi, on a fait un débrief, puis le jeudi, c'était l'autre moitié qui devait travailler de la maison. Et les gens n'étaient pas hyper enchantés que je leur dise ça. Et je pense que, donc si vous voulez, concrètement, ils ont pu faire un essai. D'accord ? Mais ça, honnêtement, ça s'est très bien passé. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'était en partie pour roder les outils, puis en partie pour, vous savez, cette courbe que je décrivais où vous remettez de la phase d'hébétement, c'était pour qu'ils puissent faire l'expérience de la gravité de la situation. Je leur ai jamais dit de bosser tous de la maison. D'ailleurs, moi, je suis pas un immense fan du home office. Hein. J'aime bien voir les gens. Mais si je leur dis qu'en fait, la moitié des gens vont travailler de la maison, puis quand 2 jours plus tard, ce sera l'autre moitié, c'est probablement qu'il y a quelque chose d'assez grave qui se passe. Et quand je leur ai dit, j'ai senti qu'il y en avait 2-3 qui n'étaient pas enchantés. Ils m'ont trouvé un peu con. Et je pense que ça, c'est l'esprit qui se défend. Si on vous fait faire un truc qui est angoissant, il y avait 2 solutions. Soit Pascal est un peu un con, soit la situation est très grave. Donc, quelqu'un qui est normalement constitué, il va vous trouver un peu bête. Mais en faisant cet essai, vous raccourcissez le temps qu'il faut pour se remettre sur ses pattes. Parce que plus tard, les gens se sont dit, je pense, hein, ah ben, c'est quand même bien, on a pu faire un essai, etc., etc. Donc souvent, pour revenir au rôle du chef d'entreprise, il ne faut pas faire ça pour être populaire. Vous ne pouvez pas exiger des gens qui vous aiment. Ce qu'il faut, c'est prendre les bonnes décisions pour que ça fonctionne. C'est un petit peu différent.
Il y avait une question D'accord. aussi sur le chat en lien par rapport à la productivité du travail. Est-ce que là, tu as un avis? Et puis, la question subsidiaire, c'est de dire, voilà, est-ce que c'est finalement une solution d'avenir à moyen ou long terme, quoi?
Alors, la productivité, en ce qui concerne WinBees, je pense qu'elle est au moins aussi bonne qu'avant. Voilà, c'est J'ai beaucoup de chance. Je pense qu'on a des gens super et puis que c'est quand les balles sifflent que les gens se révèlent. Donc, je pense qu'on est au moins aussi productif qu'avant. Est-ce que ça va changer la manière dont les entreprises fonctionnent? J'ai pas de doute. Je suis incapable de vous dire, si vous voulez, de quelle manière. Mais une chose dont je peux témoigner, c'est que sans cette crise sanitaire, j'aurais jamais permis à tout le monde de travailler de la maison. Ça, George. Mais jamais de la vie. Et là, en fait, c'était le mieux à faire parce qu'on n'avait pas le choix. Donc, c'est clair que le fait qu'on ait dû faire cette expérience, forcé et contraint, et puis qu'en fait, ça se passe bien, ça nous apprend énormément de choses. C'est une super expérience. Donc, je pense encore une fois, faut profiter de ces moments pour expérimenter des choses, apprendre, et puis après en tirer le meilleur. Maintenant, comment ça va être dans l'avenir, je suis incapable de vous dire. Mais je pense que les entreprises vont changer de forme et puis qu'elles seront un petit peu plus souples, celles qui auront survécu sauront mieux qui elles sont, elles sauront mieux comment elles aident les gens, puis qu'elles auront beaucoup changé. Ouais.
Ça nous laissera de la matière pour une prochaine conférence. Est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne?
Oui, Pascal, c'est Elisabeth. Je me demandais, suite à ta non-flexibilité de télétravail dans le passé,
Oui.
est-ce que tu serais plus flexible avec tes collaborateurs pour leur donner le choix d'être en remote une fois par semaine, par exemple, dans le futur, après le Covid?
Alors, je vais faire une réponse de Normand, Yain. D'un côté, oui, parce que j'ai fait l'expérience qu'en fait, ça peut très bien marcher. Mais par contre, je ne suis pas un hyper grand fan des règles. C'est un peu comme pour les costumes. Le sur-mesure, c'est mieux. Et je pense que on peut pas faire des règles. En tout cas, me méfierais terriblement d'une espèce de règle générale qui dit qu'en fait, dans telle entreprise, on peut faire 30% de télétravail. Ça, je suis pas sûr que ça marche. Par contre, là où ton point, il est tout à fait pertinent, c'est que le nerf de la guerre pour nous, c'est d'avoir des ingénieurs et du personnel en général qui soit de qualité, des gens qui soient intelligents, adultes, passionnés. Et c'est clair que cette guerre pour les talents, il faut la gagner, on n'a pas le choix, et que dans un esprit d'attirer les meilleurs et de leur permettre d'être le plus productif possible, cette flexibilité du télétravail, elle est intéressante. Mais je ne pense pas du tout, par contre, qu'on peut faire une espèce de règle générique. Je m'en méfierais terriblement. Mais effectivement, maintenant que j'ai vu que ça marchait, je ne peux pas faire comme si je ne le savais pas.
Merci pour ton retour.
D'autres questions? On a encore un petit peu de temps.
J'aurais une question, c'est concernant les personnes qui ne sont pas très habiles avec l'informatique. Comment on arrive à gérer ça? Est-ce que vous avez eu ce cas-là avec Winviz?
Non, j'engage personne qui n'est pas à l'aise avec l'informatique. Donc, on n'a pas du tout eu ce problème parce que je suis probablement le moins à l'aise, hein, pour vous dire. C'est souvent comme ça, mais ils n'osent pas me dire, alors ça va. Mais non, tous nos gens sont extrêmement à l'aise avec l'informatique. Je pense qu'effectivement, si vous avez des gens qui sont très peu à l'aise, c'est compliqué. Une des choses que je pourrais dire, c'est qu'il y a eu un débat récemment sur Zoom, le logiciel qu'on utilise là, hein, où il y a eu un débat parce qu'en fait, ils donnaient des données à Facebook, etc., etc. Alors, entre-temps, ça a été corrigé, donc ça ne pose plus aucun problème. Mais je dirais, vous ne pouvez pas résoudre tous les problèmes en même temps. Donc, si quelqu'un a un iPhone puis qui fait FaceTime, mais que vous avez parfois un Apple, bah, soyez souple, parce qu'en fait, c'est un outil qu'ils arrivent à utiliser. Il ne faut pas régler tous les problèmes d'un coup. Voyez? Moi, ma priorité maintenant, c'est que les gens soient efficaces, qu'ils arrivent à collaborer, qu'ils puissent le faire. Après, je sais pas, vous avez quoi comme type d'entreprise?
Alors, Je remets le micro. Oui. Nous, moi, je co-gère un domaine viticole. On a eu la chance d'avoir un bug informatique début février qui nous a obligé à mettre sur WinBiz Cloud. Ça va bien.
Vous voyez, les bugs font des bonnes choses.
Donc, du coup, on a pu un peu anticiper tout ça, mais voilà. Sauf que tout le monde n'est pas super à l'aise.
Ouais. Alors, moi, l'outil que j'utilise le plus, c'est le téléphone. Alors, je pense me faire greffer un headset d'iPhone dans les oreilles prochainement, hein, parce que voilà, ça, c'est l'outil principal. Appeler les gens. Je sais pas trop quoi vous dire. Vous n'allez pas pouvoir transformer des gens qui n'aiment pas les outils informatiques en cadors de la programmation en une nuit. Je pense qu'il faut… Il ne faut pas non plus leur cacher la vérité. C'est-à-dire que si vous n'avez pas moyen de faire autrement qu'utiliser des outils informatiques, il faut le leur dire. Ils peuvent apprendre. Je vais vous raconter une anecdote. Je ne sais pas s'ils nous écoutent, mais il y a un de mes collègues, un soir, il m'écrit, puis il me dit « Ah, Pascal, qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai développé un outil de gestion des contentieux. » Puis il met une vidéo. Il y avait un petit prototype d'un outil pour gérer les contentieux. Puis je me dis « Waouh ! » Et deux jours plus tard, je vois qu'en fait, ce mec, qui est un gars extraordinaire, il a fait un cours en ligne de programmation. Voilà, je ne le savais pas. Hein. Et en fait, il travaille au support. Donc, il répond à nos clients. Donc, il connaît bien le logiciel qu'on fait. Il connaît bien WinBiz, mais il n'est pas censé forcément programmer. Ben, il s'y est mis tout seul. Hein. Ce n'était pas mon idée. Ce n'était pas moi qui lui ai dit qu'il fallait faire un outil de contentieux. Je ne lui ai rien demandé. Puis en fait, il a fait ça. C'est venu comme ça. Donc, les gens, ils ont la capacité d'apprendre. Il ne faut pas sous-estimer ça. Si vous avez absolument besoin d'outils, il faut le leur dire. Et puis, passer du temps, il faut peut-être regarder s'il y a des gens qui sont dont la spécialité, c'est l'informatique, qui peuvent vous aider. Si vous voulez, vous pouvez m'appeler après. Si vous avez des questions plus spécifiques, on peut en reparler en privé. Mais il faut essayer de chercher de l'aide et si vous ne pouvez pas faire autrement, il faut vous adapter. Le plus vite vous vous adaptez, le mieux. Il ne faut pas avoir peur. Ils vont apprendre.
C'est ce qu'on essaie de faire. Merci.
D'autres questions ?
Ouais, moi, j'ai une petite question. En termes de vente du produit, marketing, publicité, comment vous gérez cette période ? Vous n'envoyez plus vos vendeurs sur le terrain, j'imagine.
Non, je les ai tous virés, on n'en a plus. Alors, ça, c'est une chance, c'est qu'en fait, on a un modèle qui est entièrement digital où tout s'achète sur Internet. Donc, je dirais, si vous voulez, je pense qu'en fait, le fait d'avoir des vendeurs sur le terrain, sauf si vous vendez du consulting, ça a peu de sens. Donc, il faut tout de suite passer à un modèle digital. Je le pense depuis longtemps, on l'a fait, ça marche très très bien. On continue à faire des ventes, hein. On signe, je sais pas, entre 5 et 10 PME par jour. Donc, c'est quand même pas mal, vu la fin du monde, c'est pas mal. Je dirais que AdWords ou ces choses-là, j'ai jamais fait. J'aime pas du tout ce modus operandi parce que je veux pas payer une taxe pour pouvoir parler à nos clients. Ce que je fais systématiquement, c'est que j'investis dans les solutions qu'on propose pour qu'elles soient les meilleures possibles. Donc, il faut résoudre un problème le mieux possible et investir là-dedans plutôt que dans la publicité. Je pense pas, peut-être je me trompe complètement, mais je suis vraiment pas un grand publicitaire, j'aime pas du tout ça. Parce que pour moi, la publicité et le marketing, c'est un peu choisir la couleur de la lessive. À mon avis, c'est quelque chose qui est en train de disparaître. Je donne un exemple spécifique. Si vous lancez une lessive, vous allez mettre votre équipe sur le coup pour qu'ils décident si la lessive doit être rose ou bleue, etc. Puis vous allez choisir une photo inspirante des Alpes pour décrire la pureté et la propreté. Alors, je ne suis pas sûr que là, ce soit le bon moment pour le monde de se focaliser là-dessus. Et d'ailleurs, si on y réfléchit bien, si les lessives étaient toutes transparentes, on économiserait des millions de tonnes de pigments et il y aurait plein de jobs bullshit qui disparaîtraient et ce serait tant mieux. Donc, je ne suis pas un grand fan de la publicité. Par contre, je suis un fan de l'explication, c'est-à-dire la vente, oui. Si vous voulez, le marketing, c'est un peu raconter une histoire. La vente, c'est expliquer le problème qu'on résout. On n'est d'ailleurs pas très, très bon hein, chez Winpeace. Je ne pense pas qu'on soit très bon. Mais il faut essayer d'avoir le meilleur site Internet possible. Ça, je pense que c'est important. Quelqu'un qui vient sur votre site, il doit pouvoir comprendre ce que vous faites, vous appeler ou acheter, commander. Enfin bref, c'est vraiment le vendeur, c'est .ch ou .suisse ou .com ou point ce que vous voulez. Et puis, je dirais, la nuance que j'introduirais aussi, c'est le fait de communiquer, c'est-à-dire être présent déjà pour montrer qu'on n'est pas mort, qu'on est là, être présent pour vos actionnaires, pour vos employés, pour vos clients, pour vos prospects, pour un peu tout le monde, parce que l'hypothèse, si vous voulez, en situation de crise, si on ne communique pas, si on ne dit rien, comme la nature a horreur du vide, les gens inventent. Vous voyez, ils se disent, ah, ça fait, je sais pas, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas entendu Pascal. Il est sûrement mort ou il a pris des vacances ou la boîte coule. Pas du tout, ça va super bien. Mais en temps normal, je ne le disais jamais parce que je ne voyais pas l'intérêt de le dire. Vu la situation, je pense que ça a un intérêt de dire qu'en fait, ça va bien et qu'on est là pour nos clients. D'ailleurs, une des choses qu'on a fait, c'est qu'on a commencé, chose qu'on n'avait jamais fait avant. Hein. Moi, j'avais une trouille du diable avec les réseaux sociaux. Je ne suis pas du tout à l'aise et je suis trop vieux. Et une des choses qu'on a commencé à faire, c'est rédiger des tas d'articles dans notre FAQ, par exemple, pour obtenir les subsides. Tout ce merdier là où il vous faut tout un truc de comptabilité. Et tout. Puis on s'est dit, bon, on a 40 000 clients, ils ne savent pas comment faire, ça va être l'enfer, on va essayer de les aider. Alors, on a rédigé un article pour expliquer comment faire. Et puis, on l'a mis sur LinkedIn, au talent, comme ça. Et en fait, ça s'est super bien passé. Puis, il y a un monsieur dont le nom m'échappe. Je m'excuse auprès de lui s'il nous écoute. Mais qui a posté une remarque en disant que c'était cool, que c'était super, mais qu'il lui manquait quelque chose. Et du coup, maintenant, en fait, quand les gens nous demandent un truc sur LinkedIn, on leur répond sur LinkedIn. Parce que, en fait, sinon, on n'a pas moyen de savoir qu'ils ont besoin de ça. Donc, le fait d'être présent… dans leur espace psychique, ça permet d'avoir un retour puis de s'ajuster. Parce que autant il y a un défi pour savoir ce que vos employés pensent ou font, autant il y a un défi pour savoir ce que vos clients vivent. Alors nous, on en a trop pour pouvoir parler à tout le monde, mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont besoin de nous et que ce qu'on doit faire, c'est être là pour eux. Sinon, on mérite de disparaître. Donc, je veux dire… Il faut essayer d'engager la conversation.
J'avais remarqué que vous étiez plus présent sur LinkedIn. C'est pour ça que je vous posais la question.
Ouais. Non, c'est pour ça. C'est pour que les gens se disent, tiens, il se passe quelque chose. Je vais lui répondre. Puis, j'essaie de le faire de manière assez spontanée parce que je crois que la grande erreur qu'on fait, c'est qu'on pense toujours que les autres savent ce qu'ils font et qu'ils sont très à l'aise. Ça n'est pas vrai. Il y a une expérience super intéressante qui a été faite aux États-Unis dans les années 60. Ils ont pris des étudiants et en fait, ils leur demandaient de remplir des formulaires. Donc, ils les assoient dans une pièce avec un formulaire et puis ils doivent remplir. Je ne sais plus quel est le psychiatre qui a fait ça, mais vous le trouverez sur YouTube. Puis, on voit l'étudiant, c'est filmé. Hein, alors, ils lui donnent un formulaire puis ils commencent à le remplir et tout ça. Puis, ils lui disent, ce qui est très important, c'est de remplir le formulaire. Mais il faut répondre très précisément à toutes les questions. Et puis, la vraie expérience, elle est ailleurs, c'est qu'en fait, ils foutent le feu à la pièce. Donc, il y a un dégagement de fumée, puis il y a une odeur affreuse qui arrive. Alors, quand l'étudiant est seul, 9 fois sur 10, il se lève dès qu'il voit la fumée, puis il dit « Waouh, il y a un feu, qu'est-ce qui se passe ?» Il va regarder, il voit des flammes, il ouvre la porte et il crie dans les corridors pour dire à tout le monde de partir. Et ils ont fait l'expérience complémentaire qui, et là, c'est intéressant, ils mettent un étudiant dans la pièce avec le même formulaire et ils lui disent « tu dois vraiment bien remplir ce formulaire, on va tester des choses ». Mais ils mettent un certain nombre d'acteurs à côté. Et les acteurs, eux, ils remplissent leur papier et une fois que la pièce est pleine de fumée, ils ne bronchent pas une oreille et ils restent concentrés sur la rédaction de leur formulaire. D'accord ? Et en fait, quand les gens sont seuls, 9 fois sur 10, ils font… Ce qui est de bon sens, c'est d'aller voir si ça brûle. Quand ils sont entourés d'acteurs qui ne bougent pas, 9 fois sur 10, ils ne bougent pas. Et la première chose qu'ils font, c'est qu'ils regardent ce que les autres font. Puis si personne ne bouge, ils se disent « bon, personne ne bouge, tout va bien ». Et je crois que c'est un peu ce qui nous arrive tous, c'est-à-dire que la vérité, c'est que tout le monde est un peu perdu, personne comprend trop ce qui se passe. En tout cas, s'il y a des super malins qui savent exactement ce qui va se passer dans 6 mois, il faut qu'ils me contactent rapidement parce que ça vaut cher. Et on peut faire des hypothèses, bien sûr, mais en fait, on ne sait pas. Tout le monde a peur, personne ne sait trop ce qu'il faut faire. Mais ce dont je suis persuadé, c'est que de rester terré dans sa grotte, ce n'est pas une bonne idée. Il faut parler, il faut articuler un discours, il faut écouter, parce que c'est le seul moyen d'avoir un retour des clients, c'est d'engager une conversation. Alors, comme ils sont tétanisés, ben, le moins pire, c'est de s'exposer et puis de proposer quelque chose. Puis quand on fait des bêtises, ce qui évidemment arrive, on s'excuse. Voilà.
Merci beaucoup. Pascal, on peut prendre une dernière question s'il y en a encore une. Le temps file. Hop, pardon. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, je voulais vous remercier pour conclure. Remercier aussi Jean-Pierre Ray pour le lien envoyé sur le chat pour poursuivre un peu la thématique au niveau de l'entreprise en mouvement, de préparer le futur. C'est un lien qui pointe sur hrtoday.ch. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Merci à Jean-Pierre. Et merci aux autres pour vos commentaires, parfois assez rigolos. Je voulais terminer en remerciant donc Pascal. Je pense qu'on peut l'applaudir virtuellement. Je vais le faire, je vais faire du bruit pour vous, mais je pense que c'est sincère aussi. Donc merci Pascal. Voilà.
Super, merci.
La foule en délire. Donc merci à lui pour cette franchise et ses conseils.